Alors, je vais prier. Père Céleste, je voudrais t'inviter ici autour de cette table, dans nos cœurs, dans nos oreilles, dans ma bouche. Et que ce que je donne laisse une trace. Merci. Merci au nom de Jésus. Amen. Voilà. Alors, probablement, on a différentes approches des psaumes. On pense beaucoup à la louange, on pense à la belle prose, à la belle littérature. Moi, j'ai toujours aimé que ça touche le côté descriptif, explicatif, prophétique. Et puis, j'ai déjà parlé de psaumes en m'appuyant sur un livre d'un nommé Henry Moore, qui est décédé déjà. Il l'appelait le père du créationnisme. Le père. Alors, il a fait un livre et il s'intitule « Treasures in the Psalms ». Il n'y a pas tous les psaumes qui sont décrits là-dedans. Et aujourd'hui, je veux juste faire un survol du psaume 104. Mais vous verrez, je resterai que dans les trois premiers versets en réalité. Alors, le psaume 104, il a intitulé le grand chapitre « Les âges primitifs de la terre ». Et je veux juste lire les versets dont je vais parler. Et je commence par psaume 103, 22. Désolé, j'ai dit 104, mais vous allez comprendre après. Alors, psaume 103, 22. Bénissez l'Éternel, vous, toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. On passe au 104. Mon âme bénit l'Éternel, Éternel mon Dieu, tu es merveilleusement grand, tu es revêtu de majesté et de magnificence. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que le psaume 103, il s'est marqué au début de David. Et il est très très probable que le 104 soit également de David. Et je suis tellement ébahi ce que David, un roi qui devait certainement avoir beaucoup d'occupations pour régner en Israël, comment il a pu écrire ce psaume. C'est un peu une description de Dieu, sur Dieu. Et ça ne pouvait qu'être inspiré de la part de Dieu, ce psaume. Alors, dans le livre, il y a des blocs que j'ai donné une lettre à chaque bloc. A, c'est le début de la création. C'est les versets 1 à 3. Le début de la création, versets 1 à 3. B, c'est la création des anges, versets 4 à 5. Versets 4 à 5, la création des anges. Si vous le lisez, vous allez avoir les titres de ces chapitres. L'arrivée du déluge, c'est les versets 6 à 9. D, c'est le monde après le déluge, versets 10 à 13. Et provision de nourriture et abri, versets 14 à 28. F, le problème de la souffrance et la mort, les versets 29 à 30. les versets 31 à 35, je les lirai à la fin de mon introduction, parce qu'ils sont tellement magnifiques. C'est une louange à Dieu pour sa bonté. Alors, nous, on va regarder que le premier bloc, le début de la création. Une première chose, c'est qu'on voit dans le verset 2 que Dieu, il entre dans sa création. Et nous voyons qu'en 1 Timothée 6, 16, que Dieu habite la lumière inaccessible. Et la lumière est l'énergie de base de l'univers physique. Et vous savez certainement, ou vous ne savez pas, j'espère que je vous apprends quelque chose. En général, on dit la plus grande vitesse, c'est la vitesse de la lumière. Et la vitesse de la lumière, c'est 300 000 kilomètres à la seconde. Et vous savez ce que ça signifie? C'est dès qu'on allume quelque chose, si la lumière était visible tout autour de la Terre, elle ferait 7 fois le tour de la Terre, 7 fois et demi le tour de la Terre pour arriver à être... Si mon œil gauche voit partir, et l'œil droit voit arriver, elle a fait 7 et demi fois le tour en une seconde, la lumière, la vitesse. Mais moi, je vous dis que Dieu est encore plus rapide. Rien que par le fait de son omniprésence, tous ces omnis qu'il a, tous les omnis qu'on lui donne. De plus, nous savons que Dieu est lumière. Donc, à la rigueur, des fois, il ralentit un peu sa rapidité en s'asseyant sur le faisceau lumière. Et c'est 1 Jean 1,5 qui dit ça. Pardon. Personne ne sait à quel endroit Dieu se tient dans sa lumière. Éphésiens 4 dit. Oui, après. Éphésiens 4, 10 dit qu'il est au-dessus de tous les cieux. C'est là qu'est centrée toute sa gloire. Il y a d'autres illustrations qui sont difficiles à mettre dans nos conceptions humaines. Et par exemple, on peut lire Ézéchiel 1:4 et 1:24 et Apocalypse 22:1 qui se réfère un peu à la présence de Dieu et à la lumière. Pardon. Maintenant, dans ce livre, c'est quelque chose d'intéressant. Je pense que c'est intéressant à se souvenir qu'il y a des règles d'interprétation herméneutique biblique. Et ça consisterait à prendre n'importe quel passage biblique en premier lieu tel que l'auteur avait l'intention de le présenter. Donc David, prenons David, que lui, il avait une intention. Et il avait une intention certainement de révéler la grandeur de Dieu. Et à la fois, il adapte ça au niveau humain, mais il pense aussi au niveau divin. Cela déterminé aussi bien par son contexte immédiat que dans le contexte d'autres parties irrelatives dans les Écritures, toujours dans l'interprétation. Et normalement, on comprend un passage biblique littéralement, à moins que cela soit impossible. Je pense, par exemple, il y a une erreur d'interprétation pour la prise de la Sainte Cène, par exemple. On ne boit pas le sang de Christ. C'est pas le sang, c'est spirituellement qu'il faut le comprendre. Comme on mange pas sa chair, on mange spirituellement, on s'imbibe de Jésus. Voilà. Par exemple, ça c'est déjà pas, on peut pas être littéral pour ce genre de choses. Il y a certainement beaucoup de passages. Et lorsque des figures sont utilisées, on peut s'attendre que la signification des figures est clarifiée ailleurs, car le but, c'est important. Le but de l'auteur est la communication et non pas la confusion. David ne voulait pas mettre de la confusion avec son psaume, ni du charismatique, comme on comprend parfois. Et dans le psaume 104, on ne trouve pas d'explication pour ces trois versets. Nous devrions conclure ou bien que la description est littérale. Est-ce que c'est vrai que Dieu s'enveloppe de lumière comme d'un manteau? Comme d'un manteau, pas. Il n'est pas un manteau. Il s'entoure de lumière, d'un manteau de lumière. Voilà. Donc, ou bien on comprendrait plutôt que Dieu est actuellement dans une salle de trône. Il s'y tient avec sa gloire, dans une salle de trône. Mais ce qui est important, c'est quand même, il voulait dire que Dieu a atteint un endroit, la présence de Dieu occupe un emplacement spécifique quelque part dans son univers qu'il a créé lui-même. Le Seigneur Jésus-Christ, lors de son ascension, il était dans un corps littéral. On pouvait le toucher, on pouvait le voir, on pouvait l'entendre. C'était un être humain, littéralement décrit. Et il est monté dans un nuage qui est aussi littéral. Donc, il a disparu dans un nuage. Et le nuage, c'est vraiment, on peut dire, nuage. Hein. Et ensuite, il est monté. Est-ce que ça existe, une forme du verbe ascendre? Parce que je n'ai pas trouvé en français. Non, hein? Ça n'existe pas. Alors, il est monté dans le ciel, distant de la demeure de Dieu, où il s'est assis à la droite de Père. Marc 16, 19, Colossiens 3, 1. Voilà. D'un autre côté, que Dieu ait fait sa chambre haute, où se trouve sa présence centrée. Quand nous disons nous allons au ciel, hein, ça veut dire nous allons chez Dieu. Nous allons pouvoir aller au ciel. Et ne contredit pas le fait, même qui est encore plus grandiose, de son omniprésence. C'est ce que j'ai dit au début. La rapidité est due à son omni de tout. Et en un autre sens, le cosmos entier est sa demeure et sa gloire peut être spécialement illustrée à l'homme dans l'étendage sur la terre comme une tenture disposée dans la lumière, diffusée autour par le soleil et les étoiles et agissant à travers les eaux, les vents et le feu qui soutiennent la vie sur terre. Ça, c'est au verset 4 du psaume. Au verset 3, il joint les poutres de ses chambres hautes dans les eaux, il fait des nuées son char, il se promène sur les ailes du vent, il fait ses anges des esprits et ses serviteurs des flammes de feu. Voilà. Alors, maintenant, je terminerai avec les versets 31 à 35. La gloire de l'Éternel sera à toujours. L'Éternel se réjouira en ses œuvres. Il regarde vers la terre et elle tremble. Il touche les montagnes et elles fument. Je chanterai à l'Éternel durant ma vie. Je chanterai les cantiques à mon Dieu tant que j'existerai. Que ma méditation lui soit agréable, moi, je me réjouirai en l'Éternel. Les pécheurs prendront fin de dessus la terre et les méchants ne seront plus. Mon âme bénit l'Éternel. Louez-je, en fait, ça veut dire Alléluia. Voilà. Amen.